les médecins africains. Et c'est Charles Anton qui dit ça, hein, et il a raison. La place des femmes est centrale. Bon, moi, je trouve qu'elle est centrale pour plusieurs raisons. Mais si on discute en termes de revendication vers l'égalité, parce que c'était ça la fin de votre question, l'égalité n'est pas en question. L'égalité, c'est quelle position nous avons. Or, quand on prend le pouvoir politique, Bamel, c'est un homme, Bou, c'est un homme, Black, c'est un homme, Céline, c'est un homme. Alors, on a la Linguer, mais la Linguer n'est pas à la tête. La Linguer n'est pas à la tête. Et toutes les femmes ne sont pas des Linguer. Et la position politique que ces femmes ont, parce qu'elles transmettent par le lignage du terrain les biens matériels, les biens symboliques et les biens politiques, donnent des positions à des hommes, mais elles ne donnent pas une position à elles-mêmes. Elles n'ont de position réelle quand elles deviennent la mère de Céline Touba, Céline, toutes les mères dont nous parlons. Comment expliquer? Quand on veut dénouer ça, alors on devient féministe.
Interview de la sociologue et féministe sénégalaise Fatou Sow par l'Université virtuelle du Sénégal, 6 novembre 2021. Bonjour, vous écoutez Noir Atlantique, un podcast de Fania Noël produit par Kizu Studio. Dans Noir Atlantique, je suis en conversation avec des militants, militantes, artistes universitaires ou intellectuels noirs et on parle de nous, des luttes, des cultures, des pensées et des mondes noirs.
Un homme n'aura aucun problème à porter ce qu'il veut, à faire ce qu'il veut, s'il le peut, hein, bien sûr, et à prendre des décisions qui le concernent individuellement et qui concernent le groupe. Pour les femmes, c'est plus difficile. Parce que les femmes sont des icônes de la représentation nationale. Si vous êtes une femme sénégalaise et que vous portez un pantalon, on vous regarde. Si vous portez un boule lendemain, on vous dira « Ah, aujourd'hui, tu es une vraie sénégalaise. » Jamais on dira à un homme qui porte un pantalon ou un boubou s'il est un vrai sénégalais ou un faux sénégalais. Parce qu'au fond, critiquer... Alors, vous savez, on parle souvent des valeurs ancestrales du Sénégal, les valeurs ancestrales de l'Afrique. Or, ces valeurs ancestrales, on n'en parle pas pour les hommes, on en parle que pour les femmes. Les femmes doivent respecter les valeurs ancestrales. Mais c'est quoi une valeur ancestrale? Il n'y a plus de valeurs ancestrales. Une société qui ne vit que sur ces valeurs ancestrales meurt. Moi, je trouve que c'est comme un piège pour les femmes. Changez, mais ne changez pas trop. Parce que si vous en avez trop, vous allez prendre une autonomie. Et l'autonomie des femmes totale est vraiment, je pense, insupportable pour beaucoup, beaucoup trop de gens.
Extrait d'interview avec la sociologue et féministe Fatou Sow par le site wati.org, 15 avril 2019. Au programme aujourd'hui, laissez les femmes sénégalaises tranquilles. C'était le thème d'un space sur Twitter cette semaine. Mais le thème n'est pas nouveau. Les féministes sénégalaises sont sur le pied de guerre au Sénégal, mais aussi dans la diaspora. On connaît l'œuvre, ou si vous ne connaissez pas, vous devriez, de Mariama Ba, Fatou Diom, Fatou Sow, Fatou Kine Camara. Mais les luttes contemporaines des féministes sénégalaises sont prises en étau entre les luttes du dedans, contre le patriarcat, contre la corruption, contre la gestion de l'État, et les luttes du dehors, néocolonialisme, plan d'ajustement structurel, FMI, et le complexe industriel de l'humanitaire. Aujourd'hui, je reçois la sociologue et féministe sénégalaise Letty Fary depuis Dakar. Letty est impliquée dans plusieurs groupes. Elle est membre fondatif du collectif féministe Jama qui a lancé les hashtags DidDouWow et SifNadak, une campagne de sensibilisation et d'identification des stratégies communautaires de lutte contre les violences sexuelles au Sénégal. Elle est aussi chercheuse dans des projets de l'université Gaston Berger de Saint-Louis sur un programme qui est centré sur l'accueil des adolescentes victimes de violences basées sur le genre et la prise en charge de leur santé sexuelle reproductive ainsi que des droits connexes. Letty a un pied dans différents pays. Elle est impliquée dans le centre Simone de Beauvoir de l'université Concordia à Montréal. et elle est cofondatrice d'un groupe qui s'appelle Care Nomade, qui est basé à Montréal, qui est un groupe de féministes noires qui s'intéresse particulièrement à la santé mentale. Elle enseigne des cours sur les mouvements féministes et mouvements anticoloniaux à l'Université de Saint-Paul et prévoit bientôt un cours sur genre et cinéma à Dakar. Cet épisode est le dernier de Noir Atlantique. C'était un plaisir d'avoir ce podcast pendant ces 3 ans, un podcast qui a changé de nom. C'est un plaisir d'être en conversation avec des personnes dont je respecte le travail, que j'affectionne, de rencontrer des nouvelles personnes que je connaissais pas. Et c'était un plaisir aussi d'interagir avec vous, avec vos petits commentaires après les épisodes. Mais je m'en vais pour d'autres aventures, mais je serai pas très loin, donc encore merci. Cet épisode est dédié à Bell Hooks, une perte monumentale et incommensurable pour les féminismes noirs, une théoricienne féministe noire qui a eu un énorme impact et qui a vraiment aidé à la formation politique, intellectuelle, théorique de bon nombre d'entre nous, afroféministes, black feministes, féministes des Caraïbes ou d'Afrique. Merci, je pense que c'est ça qu'on devrait la remercier, et pour son travail, son œuvre prolifique. Et essayer d'être à la hauteur un peu tous les jours.
Merci infiniment, Fania. Merci pour ça. Et puis, oui, Bell Hooks, je pense que Bell Hooks, ça nous rassure toutes de savoir quel magnifique ancêtre elle va être, hein, pour nous toutes et tous. Et puis, oui, c'est trop tôt, même si on sait, hein, on se dit dans nos esprits d'Africains, africaines, afro-descendantes, que c'est une transition, n'est-ce pas? Mais ouais, et Birago Diop le disait, hein, les morts ne sont pas morts. Donc voilà, une belle pensée à Maman Bell Hooks. Merci beaucoup pour cet espace, Fania. Merci d'avoir tenu le fort pendant aussi longtemps.
Ah, merci. Donc, commençons. On va commencer, comme je parlais dans l'introduction de ce space Twitter, je ne sais pas si tu l'as vu, qui s'appelait Laisser les femmes sénégalaises tranquilles, qui restait vraiment longtemps. Je pense qu'il a duré 3 ou 4 heures. Hein, et il semblerait qu'on suit la conversation. Bon, je ne peux pas suivre toute la conversation parce que je ne parle pas Wolof. Et il y a du français mélangé avec du Wolof. Parfois, c'est difficile à suivre. Mais il semblerait qu'il y ait eu dans l'actualité des faits qui ont remis cette question et de harcèlement dans la rue au Sénégal, mais aussi de la façon dont on parle des femmes sénégalaises. Là, je pense au dernier prix Goncourt et que son texte qui est ressorti, où il nous a dit gentiment d'apprendre à lire, qui avait une attaque particulière contre les femmes sénégalaises. Est-ce que toi, tu vois qu'en ce moment, il y a le sujet qui revient particulièrement?
Merci. Le truc, c'est que moi, cette question-là, le tweet, en fait, je pense qu'il s'inscrit effectivement dans un contexte de ras-le-bol général, mais au-delà de ce ras-le-bol-là, parce que les éléments qui causent ce ras-le-bol-là ne sont pas nouveaux, hein, c'est tout ce qui se fait, tout ce qui se passe et tout ce que l'on sait sur la question des femmes, des corps des femmes et de cette assignation-là à l'africanité, à la sénégalité, à qu'est-ce que ce serait une femme africaine, justement une bonne, une vraie femme africaine, etc. Et donc, je pense que c'est toutes ces injonctions-là qui causera le bol-là, mais elle nous retrouve dans un moment où l'espace est magnifiquement peuplé, je dirais grossièrement, de féministes de tous les âges, en fait, qui sont très, très actives sur les réseaux, donc notamment Twitter, Facebook ou autres, et qui réussissent à se faire, je dirais pas entendre, mais en tout cas à faire du bruit, à déranger suffisamment pour que tout le monde parle de féministes, etc. Mais que quand même malgré tout ça, on répète aux gens que c'est une doctrine, en fait, si pour les personnes qui l'appellent doctrine, mais c'est juste, c'est un truc de femme blanche. Et donc, même si on n'arrête pas de rappeler le travail qu'ont fait les Fatou Sow, les Amina Mama et beaucoup d'autres femmes bien avant et qui se disent qu'elles sont féministes et africaines et féministes sans mais ni si. Donc voilà, mais après ça, ce qui arrive, c'est que les éléments sont là pour nous dire que les discours des femmes ne sont pas bien reçus, surtout lorsqu'elles choisissent de parler pour elles-mêmes et puis adresser leur droit, en fait, se mobiliser. Donc, voilà.
En tout cas, c'est assez clair. Et quand je voudrais parler plus du féminisme sénégalais contemporain, même si on arrive à voir des échos, surtout qu'on est loin, enfin, il y a tout un océan, mais on n'arrive pas vraiment à voir, même si, à part les gens qui s'intéressent, moi je m'intéresse à ça, j'ai des contacts avec des personnes comme toi, des personnes d'autres collectifs, on peut travailler dans les mêmes espaces, mais qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui ne savent pas les luttes actuelles des féministes sénégalaises contemporaines, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe actuellement en termes de mobilisation, sur quel sujet c'est mobilisé, sur quels sont les enjeux de production théorique et idéologique actuellement cette question féministe au Sénégal.
Ok, en fait, c'est une belle question et je pense qu'une chose qui est très, très, qui réunit en fait tout le monde, qui est très fédératrice, c'est cette question-là des violences, du contrôle des corps. Fatso a fait récemment une belle conférence dont le titre c'était « À qui appartient le corps des femmes ?» Et en fait, on se dit, mais c'est des questions abordées déjà depuis les années 60, 70, 80 par les féministes et les alliés, et ça continue en fait. Et donc, ça, c'est une lutte qui continue, même si je pense que après ça, le truc qui va arriver, c'est qu'il y a des gens dans cette démarche-là qui vont avoir une posture plus féministe, comme centrée, afro-centrée, féministe, etc. D'autres qui vont avoir un féminisme plus de sauveuse, hein, n'est-ce pas? Et d'autres qui auraient tout à fait juste une posture humaniste, donc moins politisé. Mais tout ça va regrouper cet intérêt-là pour la question de la protection de l'intégrité physique et mentale. Donc ça, c'est vraiment une lutte qui est fédératrice. Et je dirais même pas seulement au Sénégal, je dirais même dans la sous-région où j'ai eu l'occasion avec une autre camarade, Rosane, de parler avec d'autres féministes. Maintenant, une lutte qu'on voit moins et qui est portée par des femmes comme Fatou Kiné Camara et d'autres, c'est tout ce qui ramène la place des femmes africaines une réflexion plus d'agency. Donc, de dire que, non, les Africaines, en fait, justement, le féminisme, les féminismes ne sont pas une question de blanche, parce qu'en partant d'idées, d'actions, d'événements historiques qui permettraient de mieux voir cette réalité-là, en fait, mais du continent et peut-être en partant aussi des choses qui se sont passées de la Caraïbe. Et ça, c'est vraiment des réflexions que Fatou Kiné Camara, notamment, entre autres, nous permettent de faire. Donc, il y a des choses qui se passent, mais il y a aussi des éléments qui sont très frustrants parce que je pense que la réflexion sur la classe n'est pas nécessairement en train d'être menée, même si beaucoup de ces féministes des années 70-80 sont quand même des féministes matérialistes. La réflexion, elle ne se fait plus, en tout cas, sur la question de la classe. Et là, je ne dis pas juste qu'on n'écrit pas sur la classe, je dis qu'on ne s'interroge pas. Et donc, on ne s'interroge pas sur les notions de privilège, pas suffisamment, etc. Puisqu'on est, pour certaines, des fois, dans une dynamique de saviorism. Parce que quand on dit aux femmes, sortez et dénoncez, en parlant notamment des violences sexuelles qu'auraient vécues les Miss, donc les femmes qui ont participé à des concours de beauté, il y a quand même une injonction à leur dire, donc sortez, parlez, etc. Et là, on ne tient pas compte de qui peut parler et qui est protégé dans l'espace public lorsqu'elle parle et qui peut faire face au système de justice, en fait, et à quoi il sert ce système de justice-là, parce qu'il n'est pas très utile pour l'instant, pour les femmes, encore moins pour les femmes pauvres.
Oui, en tout cas, c'est sur cette question de classe, parce qu'en fait, il y a une question qui revient assez souvent, enfin, depuis la diaspora, c'est-à-dire qu'on voit qu'il y a un sort de clash entre les élites africaines, hommes et femmes, sur le discours qu'elles peuvent porter, ces élites africaines ou ces élites intellectuelles, c'est-à-dire même pas une question de financière, mais de capital intellectuel, etc. Et le regard et le discours qu'elles ont sur les populations, par exemple, qui vivent en France, au Canada, etc., et qui sont issues des classes classe pauvre. Et pour ne citer personne, il y a des exemples hein, d'autrices africaines féministes assez connues. Et on voit transpirer cette notion de classe, de faire partie d'une sphère de bourgeoisie intellectuelle et la façon dont elles sont confrontées à des personnes qui sont de nationalité de pays du Nord, mais qui sont issues de familles migrantes, mais de familles migrantes pauvres. Donc, comment tu vois, c'est une question qui revient souvent, hein, cette question de la place de médiation des élites africaines, même celles qui sont féministes, et ce n'est pas que lié à l'Afrique subsaharienne, c'est aussi, on voit ça beaucoup, par exemple, en Turquie ou dans les pays d'Afrique du Nord, où il y a comment quelque chose qui est de la friction. Comment c'est ressenti, comment ça c'est vécu en termes d'opposition, d'antagonisme, de lutte au Sénégal, cette question du féminisme des classes moyennes et supérieures du féminisme qui ne dit pas parfois le mot féminisme des classes populaires.
C'est tellement important. En fait, Sam, hier, tu as écrit un truc, Fania, je vais faire ma groupie. Tu as écrit un truc à propos de Bell Hooks, justement, en disant, je vais mal te citer, mais ça disait en gros qu'elle était parmi nous, qu'elle n'était pas en train de parler de nous, en fait.
Exactement, oui. Et c'était pour reprendre Toni Morrison, qui disait que « I want to be a voice amongst black people, I don't want to talk ». Black people, et je pense que Toni Morrison et Bell Hooks et d'autres hein, comme Aud Lord, ils ont pu faire ça, c'est-à-dire qu'on les lisait, on n'avait pas l'impression qu'on était des sujets, parce que c'est pas forcément le cas, parce qu'on lit, moi je lis des auteurs et des scholars, des académiques noirs, et j'ai l'impression qu'ils parlent de nous, ils parlent pas au milieu de nous.
Merci, en fait, et puis c'est ça, en fait, c'est ces réflexions-là, quand je l'ai vu, je suis comme, ok, exactement, et je pense que c'est juste parce que on n'est pas parfaite, donc je pense que, mais le fait d'avoir conscience, tu vois, de la nécessité de faire ça, justement, de prendre la parole parmi nous, au milieu de nous, entre nous, pour nous, et peut-être de reculer aussi des fois, et laisser le mic comme dirait l'autre, ça peut être intéressant. Puisqu'on n'est pas capable nécessairement d'adresser toutes les questions. Et puis, bien entendu, que justement, ce rôle-là des femmes qui ont eu plus d'instructions, je dirais, formelles, qui sont plus entendues, en tout cas lues, est important. Je pense que c'est vraiment important de regarder ça, en effet, mais c'est un travail qui n'est pas suffisamment fait, tout simplement. Moi, mon humble avis, mon hypothèse, c'est que c'est parce qu'on ne se questionne pas, parce que les gens se sentent tellement solidaires qu'il n'y a plus de questionnement sur ah ben, peut-être qu'en étant un produit des écoles, mettons là pour prendre un exemple facile, le produit des écoles françaises, le produit d'une période coloniale plus active, etc.
Exactement, de sous-traitants.
Oui, et peut-être qu'il y a des trucs qu'on reproduit sans se questionner là-dessus. Et ça va se voir dans le rapport que les villes ont avec Dakar, que Dakar a avec les villes, les quartiers périphériques avec le centre. Donc, un centre très, très clair, hein, qui n'est même pas un centre justement abstrait, qui est un centre physique clair. Et les femmes, les fameuses femmes dans les villages dont tout le monde veut parler quand elles parlent de gens qui ne savent pas, Et c'est complètement n'importe quoi parce que c'est pas parce que les
en fait
gens...
elles deviennent une présence iconique, c'est en fait oui, elles deviennent oui, la oui. même présence que les noirs, c'est-à-dire que leur présence en termes de stéréotypes et d'icônes est le même, c'est-à-dire qu'on les mobilise et pour dire celles qui savent pas et celles qu'il faut sauver et celles d'aquelles qu'on peut parler comme elles sont tout le temps là sans être là.
Mais c'est absolument ça, et puis ça me fascine à chaque fois. Et je pense que le fait d'avoir été au Canada, justement dans un espace où je faisais partie plus d'un groupe minorisé, ça m'a permis de voir un peu comment je peux participer moi aussi à des processus de minorisation d'autres groupes, justement, et commencer justement à s'interroger. Parce que quand on est là-dedans, et que là, on le voit, on peut s'interroger. Et puis là, on peut se dire, OK, la classe, quand est-ce que la classe opère? Quand est-ce que la question de la langue va se jouer? Et là, je ne parle pas juste du français, mais c'est aussi le Wolof par rapport aux autres langues dont on parle moins et qu'on entend moins aussi être utilisé, etc. Et donc, et comment tout ça aussi se met ensemble et opère ensemble pour donner des logiques, comment dire, d'exclusion, j'ai envie de dire, ou même, ce n'est pas de la silenciation volontaire, mais c'est juste une absence d'écoute finalement de l'autre et de ce que la personne a à dire sur son vécu, sur son parcours. Et donc, ce n'est pas parce que nous sommes des femmes africaines et tout, que les Sénégalaises, machin, que nous ne reproduisons pas un ensemble de comment on appelle ça, de processus oppressifs.
Et je pense qu'il y a aussi, enfin, il y a la question de est-ce que tu penses que c'est renforcé, ça fait là une bonne transition avec ma prochaine question, c'est renforcé avec aussi comment la question du féminisme et des droits des femmes et des luttes des femmes est encadrée lorsqu'elle est dans des pays du sud global par le complexe industriel de l'humanitaire et aussi par les organisations internationales qui encadrent la question sur la question les groupes de femmes, les organisations de femmes et qui effacent qu'il y a une différence entre groupes de femmes et organisations féministes, que les organisations féministes sont des groupes de femmes et tous les groupes de femmes ne sont pas des organisations féministes et que les financeurs, les organisateurs, les ambassades qui financent des projets comme comme par exemple le truc 16 jours d'activisme participe à aussi mettre sur le même plan des choses qui dans les autres pays ne sont pas sur le même plan. C'est-à-dire qu'on fait la différence entre une association et un collectif politique, et là le fait que les financements ne soient pas disponibles dans les pays directement ou que les gens ne peuvent pas payer participer comme par exemple en France on peut avoir des membres qui donnent une cotisation, on a assez de ressources pour essayer de se débrouiller même sans argent parce que l'infrastructure est là, fait qu'il y a un genre de conflit et de tension. Est-ce que tu penses que c'est ça aussi, ça renforce le cadrage et la difficulté de sortir de ce cadre, de qui est-ce qui propose les espaces, comme on a vu dans d'autres questions, comme des espaces sur... penser l'Afrique décolonisée qui sont organisées par l'ambassade de France au Sénégal ou l'Institut français.
Mais c'est clair, c'est clair que ça vient jouer. Mais en même temps, et ce qui est frustrant, c'est que tout le monde a le bon vocabulaire. Hein. Les gens, ils disent, oui, il ne faut pas qu'on parle à la place, il ne faut pas qu'on montre aux gens quoi faire, il faut qu'on voit ce que ces femmes, ces jeunes femmes-là ont envie de faire, par exemple. Pendant les séjours. Moi, je connais des groupes qui sont en train de se mobiliser, qui n'ont eu besoin de rien, ou même lorsqu'elles sont allées chercher des sous pour faire des choses qu'elles avaient à faire, elles n'ont eu aucun retour. Jusqu'à ce que les personnes fassent quelque chose d'extrêmement brillant et que l'année d'après, elles puissent se retrouver avec une proposition de financement. Mais là, du coup, en fait, c'est les bailleurs qui sont mal pris. Parce que comme la personne avait déjà son activité, on ne peut plus changer l'activité, en fait. Parce que l'activité, elle peut la faire sans vous, en fait, sans les bailleurs, sans eux, et ou ne pas la faire aussi. Et donc, je pense que s'il y a une partie de notre responsabilité, de comment dire, dans l'autosuffisance, je dirais, entre guillemets, comment on mobilise plus de bénévoles, comment on lève des fonds, comment on ne se met pas dans des activités extrêmement folkloriques qui vont nous coûter des perdiums, des hébergements d'hôtels, etc. Forcément, ça permettrait d'aller sur un chemin différent. Et je pense qu'il y a des groupes qui le font déjà. Mais maintenant, quand on est dans l'institutionnel, les gens, il y en a beaucoup qui, en fait, en gros, je dirais, ils s'en fichent un peu. Donc, ils vont cocher leur case. C'était les 16 jours d'activisme. On a fait des actions, on a demandé des sous parce que là, les Blancs veulent parler de ça. On va parler de ça. Et puis, on avance. Et donc, après ça, la semaine d'après, le travail se continue comme il se faisait. Donc, lorsque les gens ne sont pas engagés pour avoir des dynamiques égalitaires, ça n'est pas, bien entendu, une activité qu'ils vont faire pour les 16 jours d'activisme qui va changer.
Et aussi, c'est comme si ça poussait les organisations à être des gestionnaires de projets, d'un projet à un autre, faire les rapports, etc., et pas penser qu'est-ce qu'on produit. Parce que tu parlais de Kiné Camara qui pense la question de l'agentivité, etc., mais il faut les espaces pour faire ça. Et ces espaces, il n'y a pas d'argent pour financer les espaces de penser ça. Et est-ce que c'est possible?
lorsqu'elle essaie de parler de l'Afrique, puis de la place des femmes dans l'Afrique néocoloniale, etc., précoloniale, je m'excuse, je ne pense pas qu'elle a énormément d'argent pour réfléchir à ça, clairement.
Mais si elle a assez d'argent pour réfléchir.
Demain matin, si elle veut parler d'excision, elle va avoir de l'argent, certainement. Donc,
En fait, c'est vraiment une situation compliquée d'être, de devoir composer avec les intérêts très focalisés des financeurs qui sont souvent basés, alignés aux intérêts des pays des Nord, et aussi le non-intérêt très aussi intéressé des propres pays qui ne veulent pas financer ça. C'est-à-dire qu'il y a un jeu qui est toujours, qui est toujours entre deux. Et ça me permet de rebondir pour aller dans une autre question, c'est que toi, tu parlais de comment tu as pu rencontrer d'autres féministes africaines, aller dans d'autres pays de la sous-région, mais aussi d'autres féministes d'origine caribéenne. Et je voulais savoir comment tu penses, parce que enfin, là, on est dans un podcast qui s'appelle Noir Atlantique, donc c'est le sujet, comment tu penses les féminismes noirs inscrits dans un panafricanisme ou inscrits au moins dans un internationalisme.
En fait, c'est intéressant que tu ramènes cette question-là parce que la démarche derrière avec mon amie qui justement, elle est haïtienne canadienne, la démarche c'était, ok, on veut entendre les femmes africaines sur leur féminisme, parce qu'il y a des gens qui, quand elles entendent féminisme et africain, en fait, féministe africaine, on dirait qu'elles entendent des sortes d'oxymores, en fait. Et donc, on s'est dit...
les oxymores.
Et on s'est dit, OK, on veut les entendre, on veut les entendre, on veut voir ce qu'elles pensent et comment elles perçoivent leur posture et c'est quoi les enjeux qui les intéressent. Et pour nous, c'était une démarche de réduction des inégalités épistémiques. Parce que quand je donnais, à un moment, je donnais un cours genre et conflit. Après, j'ai cherché des films, en fait. Je cherchais des films sur qui adressaient la question avec les femmes africaines, etc. Et on ne trouvait rien qui ne soit pas en train de parler de viol comme arme de guerre ou de transformation de beurre de karité. Donc là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On veut entendre les Africaines sur leur processus, de leur travail de résistance, qu'est-ce qu'elles font au jour le jour, comment elles le font, etc. Donc, et c'est ça qu'on a fait. Et ça nous a permis vraiment de voir qu'elles se rendent compte et elles nous partagent, et c'est ça qui les intéresse, de se dire que, ben oui, des solutions, ça fait un peu cliché, mais des solutions africaines aux problèmes africains, ça veut dire adresser la question du néocolonialisme, adresser les conséquences de la colonialité, adresser en fait du colonialisme et aussi parler des programmes d'ajustement structurel. Les personnes qui connaissent l'Afrique sauront de quoi il s'agit. Parler de toutes ces choses-là qui touchent directement l'Afrique, mais qui touchent surtout un ensemble de pays africains. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette chose-là, moi, si j'en parle avec une Ghanéenne, elle comprend tout à fait de quoi je parle quand je parle de programme d'ajustement structurel, quand je lui parle de panafricanisme, quand on parle d'un panafricanisme nécessaire, justement, pour avoir nos réponses. Thomas Sankara, en tout cas, je ne sais pas si l'histoire va le défaire, mais pour l'instant, nous, ce qu'on en sait, c'est que c'est une des personnes qui était, il fait partie des meilleurs alliés féministes, notamment pour tout ce qu'il voulait voir en termes de changement par rapport aux droits, etc. Donc, je pense que de savoir tout ça nous permet aussi de nous recentrer et de nous dire bon, ben, comment on pense la question de nos droits, notre agency, en l'inscrivant dans une dynamique panafricaine. Et moi, depuis quelques années, je m'interroge justement sur justement ce qui reste d'idéologie. Là, je parle vraiment de sur le continent, ce qui reste d'idéologie panafricaine et ce qui reste de féminisme dans cette réflexion-là. Parce que toi, Fania, tu fais cette réflexion-là, etc. Mais je ne sais pas combien de personnes sont en train de les mettre ensemble, en fait.
Non, ça, c'est sûr que Enfin, moi, personnellement, je pense que l'horizon de libération pour les Noirs ne peut pas faire l'économie du panafricanisme. Et comme les femmes sont noires, sont incluses dans les Noirs, bien sûr qu'il faut penser un féminisme africain. Et je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre ce qui se passe au Sénégal, ce qui se passe en Haïti, et comment on peut penser le féminisme dans un contexte où les Noirs sont majoritaires, mais aussi je pense que c'est une réflexion à avoir pour des personnes comme moi qui, dont l'afroféminisme est inscrit dans un contexte de minorité. Et je pense que voir ce avec quoi les féministes sénégalaises, haïtiennes, camerounaises doivent se débattre, nous permet aussi de contrecarrer les discours masculinistes noirs qu'on a dans ces pays, qui nous dit que le patriarcat noir n'existe pas, etc., et qui nous rappelle que la plupart des Noirs vivent dans des pays à majorité noire, et que le patriarcat est un problème, et que la réhabilitation de la masculinité, comme dirait Bell Hooks, n'est pas une solution et n'est pas un horizon de libération, et de voir aussi qu'il y a, de la même façon que nous, il y a des circulations entre les différents féminismes noirs, qu'ils soient aux États-Unis, dans la Caraïbe, en Afrique, en Europe, il y a des circulations extrêmement dangereuses des masculinismes et du patriarcat, et qu'on vit dans ce monde globalisé, et faire comme si les choses s'arrêtaient aux frontières d'Haïti, de Trinidad, du Sénégal, de Cameroun, etc., et de ne pas voir comment se réinvente l'antiféminisme, le masculinisme, comment il se nourrit aussi de l'ethno-nationalisme patriarcal viriliste qu'il y a dans les pays occidentaux, et comment il y a un jeu de miroir. Et je pense que oui, le panafricanisme est nécessaire parce qu'on a besoin de voir à quel point il prend différentes formes, mais il reste, il reste centré sur la même idéologie, de la même théologie de la domination, de la mort et de l'extraction du bien-être et des ressources.
Exact, exact. Et puis je pense que, tu vois, tu me fais penser à un truc récemment, je ne sais pas à qui je le disais, que on a nos problèmes, hein, on a nos inégalités, hein, de classe, de genre, etc. Mais là, on vient rajouter tout ce qui était oppression, hérité justement des pays qui ont colonisé, en fait. Et ça, en fait, c'est inquiétant parce que quand on regarde la situation des femmes, notamment sur les questions des violences, etc., et juste de comment les violences sont gérées, on voit clairement l'imbrication de deux réalités, en fait. Et donc ça fait que après, quand les gens viennent nous dire oui mais ça vient pas d'ici, on est comme mais non, ça vient aussi d'ici parce qu'on en avait sur notre base, en fait. C'est aussi le vieux débat matriarcal,
exactement,
etc., exactement, ce qu'il y avait dans le matriarcat et qu'il n'y a pas. Donc Fatsofat Kinekamara, c'est un vieux débat, là il commence à s'entendre, je pense, avec le temps. Et je pense que même lorsqu'on postule de l'existence d'un matriarcat et tout, ça n'empêche pas de remarquer qu'il y a eu des grandes inégalités que notamment les femmes des classes moins privilégiées ont subies et qui se poursuivent, en fait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le matriarcat, s'il existait, et il a existé certainement dans certains groupes, a priorisé et privilégié des classes donc plus royales, etc.
Non, et en plus, je pense que toute cette question, je pense qu'il y a des débats qu'il faut refuser, toute cette question, oh, est-ce que le féminisme a été importé, est-ce que machin, etc., c'est que, on va, même dans l'idée où, ok, on va admettre, le féminisme a été importé, mais il faut dire aussi que cette normalisation, globalisation et cette façon dont on voit le genre, de qu'est-ce que le genre, le rapport constitutif et de ce qui définit le genre, la relation entre les genres, la place des femmes, a aussi est aussi contemporain et aussi issu de la modernité et du colonialisme, de dire en fait il y a qu'une seule façon partout, ce sera toujours la même, l'homme, la femme, le pouvoir, etc., et de voir que en fait y a, que le patriarcat existait avant la colonialisation, mais que les formes de patriarcat étaient différentes, mais que là on a un patriarcat homogénéisé de ce qu'on attend de la féminité et en miroir. Donc je pense que c'est qu'il y a des débats qu'il faut refuser en disant ok, d'accord, si tu veux, de la même façon que vous adorez Netflix, les jeans, ben nous on va adorer le féminisme si vous voulez croire que c'est importé, parce que les gens ils choisissent toujours ce qui doit être rejeté de l'importation. C'est genre toutes les idéologies capitalistes de entrepreneurs. Non, ça, il faut pas. Tu vois, la croyance en la Banque mondiale, au capitalisme, au fait de faire l'argent. Non, ça, non. Ça, non. Ça, on peut. Mais le féminisme soi-disant importé, non, ça, c'est pas possible.
Non, mais exactement. Et puis, je pense que là, tu vois, quand tu parles, je me dis effectivement, mais regarde tous ces discours-là. De personnes qui sont quand même impliquées dans des mouvements de libération des Noirs, hein, pour dire ça vite, et qui a quand même des discours hyper, comment dire, c'est centré, c'est androcentré, et c'est le truc de, mais le vieux truc de on gère d'abord l'ensemble et puis on arrivera aux femmes plus tard, en fait. Et de dire non, 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 les femmes doivent être à côté de leurs hommes. Et puis là, on choisit avec qui elles vont coucher, quand, comment, où, est-ce qu'elles sortent du groupe, est-ce qu'elles vont vers d'autres femmes, etc. Et donc, oui, bien sûr. Et puis moi, cette question-là aussi des héritages de ce que justement la colonisation apporte, ça me fait penser les observations qu'on a faites, je pense, en Amérique du Nord, notamment chez les premiers peuples, c'est aussi ça, c'est comment... la colonisation a apporté d'autres formes de patriarcat, justement, qui viennent exacerber les violences. Et je pense que c'est les mêmes choses qu'on va avoir ici, que certains auteurs vont te dire, bon, ben, les violences qu'on avait n'avaient pas cette forme-là. Il y a des violences qui viennent avec la façon dont les colonisateurs contrôlaient le corps des personnes, des sujets, en fait, des sujets colonisés. Oui.
En tout cas, comme tu travailles sur, enfin, comme tu veux proposer un cours sur cinéma et genre, et on va dire écran et genre, je pense que il y a une œuvre populaire, hein, qui est extrêmement populaire au-delà du Sénégal, c'est Maîtresse d'un homme marié, et j'ai vu qu'elle a fait couler beaucoup d'encre au Sénégal, énormément, énormément d'encre. Et toi, qu'est-ce que ton point de vue sur le fait que moi comme je suis dans les cultural studies et je travaille beaucoup sur la science-fiction et sur les œuvres à l'écran de science-fiction, donc je pense que les œuvres populaires peuvent enfin sont porteurs de genres de poétique et qu'ils sont qu'on peut les avoir une critique et là je reviens encore à elle est très présente dans cet épisode à Bell Hooks, c'est une des critiques de la culture avec Greg Tate est extraordinaire et qui a proposé d'autres lectures de ce qu'on nous propose au milieu culturel. Donc, pour revenir à ça, cette œuvre extrêmement populaire au Sénégal, mais dans la diaspora, chez les non-sénégalais, mais j'ai vu que même en Haïti, elle était super populaire parce qu'elle est disponible sur YouTube, et l'encre qu'elle fait couler sur le patriarcat, les hommes, mais aussi sur ce qu'on connaît en tant que féministe, c'est-à-dire comment les femmes participent aussi au patriarcat, comment le patriarcat fabrique une sorte de complicité, de consentement des femmes et comment, pour sécuriser leur poste en tant que proche des gens qui détiennent le pouvoir, en tant que mère ou en tant que femme, elle réinforce ça.
Oui, en fait, Maîtresse d'un homme marié, là, c'est, pour moi, c'est hyper intéressant, je pense, comme œuvre pour parler de féminisme, pour parler d'agency, pour parler de contradictions et pour juste regarder ça et être inquiète, tu vois. Et donc, mais c'est une des choses qui est quand même intéressante avec cette série-là, c'est que si tu as jeté un coup d'œil, c'est que physiquement, en fait, on voit un retour à détresse, il y a moins de femmes qui s'éclaircissent la peau, etc. Et donc, je pense que ça, c'est sur l'image directe, là, l'image qu'on voit. Il y a un travail qui a été fait, donc d'avoir des gens, comme on dit au Sénégal, plus naturels. Alors, bien sûr qu'on est pour le choix, chacun fait ce qu'il veut, il, elle, de son corps, etc. Mais je pense que c'était intéressant de renouveler ça parce que on a beaucoup à la télé des personnes plus claires, pas nécessairement parce qu'elles sont claires naturellement, mais elles sont comme elles sont éclaircies la peau. On met de l'avant beaucoup de personnes avec les cheveux lisses, étant pas de cheveux mais des perruques, etc. Et donc la réflexion doit se faire bien entendu sur pourquoi on voit autant de personnes avec ce look-là au Sénégal à la télé alors que ce n'est pas la majorité en fait. Donc ça nous dit aussi quelque chose de où on se situe comme société par rapport à notre corps, même notre image, etc., à ce qu'on trouve beau, les gens qu'on trouve beau. Alors, dans les discours, tout ça, bien sûr, Maîtresse d'un homme marié nous montre très bien comment les femmes sont des bonnes courroies de transmission du patriarcat. Et puis, je pense que c'est Bell Hooks, pour ne pas la citer, qui dit que c'est pas, ça n'a pas de genre, en fait, le patriarcat. Donc, voilà. Mais non, c'est très, très problématique comme série. Et je pense que la réflexion. Après, par contre, derrière, on a des formes d'indépendance, d'autonomie des DMC, mais à suivre, quoi. Il y a du travail derrière. Ce qui a suivi cette série-là, c'est une autre que les gens ont produit qui s'appelle Infidèle, en fait. Et donc, Infidèle vient nous montrer des visages, justement, de femmes infidèles. Donc, c'est plus seulement un.
Oh, et ça fait
Ouais.
couler plus d'encre.
Oui et non, parce que je pense que c'est trop pour les gens, en fait.
OK.
Donc, au début, ça a fait couler de l'encre. Après, il y a des personnes qui se sont dit, bon, les personnes qui étaient plus dans l'analyse ont dit, en fait, c'est très dichotomisant. C'est
OK.
donc des visages des femmes très, très bien, machin, et puis les autres qui sont comme dévergondées, entre guillemets. Donc, c'est moins intéressant. Mais bref.
En tout cas, c'est assez intéressant. Et pour finir cette vraiment intéressante conversation que j'ai avec toi, qu'est-ce que tu penses pour nous dire, c'est quoi les défis à, bon, on va reprendre, enfin non, les défis de notre génération, de la génération des féministes haïtiennes à relever, parce que je voyais les Camerounais parler et qu'ils disaient que l'opacité était trop opaque, donc ils n'allaient pas arriver à voir le défi qu'ils avaient à relever, et aussi cette notion de jeunesse. Je sais que cette notion de jeunesse, cette catégorie jeune est extrêmement mobilisée dans les pays comme le Sénégal, mais aussi Haïti, où la population est extrêmement jeune, et on la fuble de quelque chose de positif, c'est-à-dire, oh, les jeunes veulent ci, les jeunes veulent ça, comme si on ne voyait pas on fait semblant de ne pas voir que, en fait, les jeunes sont traversés, comme tout autre groupe, par des questions de classe, de genre, d'intérêt politique, qui fait qu'on veut faire une seule catégorie de jeunes, mais c'est aussi, on retourne aux ONG et aux institutions globales, hein, avec tous ces forums de jeunes, etc. Donc, c'est devenu une courroie pour avoir des visas, des places, des forums, etc. Donc, je voulais savoir c'est quoi les défis pour toi, s'il y avait trois défis du féminisme sénégalais.
Ok, en fait, mais déjà, je pense qu'un des défis, c'est vraiment comment on peut sortir. Parce que, tu vois, là, il y a une génération, maintenant, il y a eu des groupes d'ailleurs qui ont organisé ce qu'on a appelé les débats intergénérationnels, en fait, dialogue intergénérationnel entre des féministes. Donc, il y avait comme trois groupes d'âge, pour dire ça rapidement, là, dont les Fatou Sow et puis d'autres gens au milieu, je pense que c'est moi, et puis après d'autres en dessous. Et c'est intéressant. Mais je pense que un des défis, c'est comment on sort des universités. Comment on sort des universités? Je sais que pour la génération de Fatou Sow, c'était encore un plus grand défi. Il y a des femmes, hein, il y a des femmes comment elle s'appelle, Marie-Angélique Savanet et autres, qui nous disent que même si nous, on leur reproche de pas être sortis des universités, elles nous disent non, mais nous, on est beaucoup allés dans les villages, on a beaucoup tourné, on est beaucoup allés sur les terrains. Donc après, bah, le questionnement continue sur les paroles qui étaient données, entendues, etc. Bien sûr, ça, on peut poursuivre les réflexions. Mais je pense que c'est sortir des universités, arrêter avec les conférences réellement là, et être dans l'action, parce qu'on manque
T'as dit
d'action.
arrêter avec les conférences,
Oui.
vraiment.
J'en ai trop marre des conférences au Sénégal, Fania, si tu savais, je ne sais pas c'est comment en Haïti, mais au Sénégal, là, j'ai jamais vu autant de conférences qu'au Sénégal. Et donc,
En fait, je pense qu'il y a un truc, tu sais, d'héritage colonial, même si de la France, ce truc de. En fait, que la politique sérieuse se fait autour, tu sais, des conférences, de cadrage. Et en fait, je pense qu'il y a un truc très intégré, petit bourgeois, hein, de le débat, la forme du débat. Donc, c'est-à-dire que parfois, on ne parle même plus du fond, on parle sur ah non, mais on ne peut pas dire ça, il y a des formes, un tel a dit ça, machin, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose Il y a quelque chose qui reste, mais il y a quelque chose aussi qu'on voit qui est très frileux, parce que dès qu'il y a des irruptions de mobilisation dans la rue d'autres groupes, là, tout à coup, il y a une espèce de panique pour essayer de les cadrer parce qu'ils ne prennent pas la forme légitime du débat, etc. Et je pense que c'est aussi parce que les pays du Sud sont drogués à l'idéologie de la démocratie, du dialogue démocratique. Après, je pense qu'il y a vraiment la théologie de la démocratie, du dialogue démocratique, de la médiation, de la transition, de machin, etc., qui se retrouve de la même façon que les politiques d'ajustement structurel financier. Il y a tellement eu de politiques de médiation, les élections qui ont été volées, machin, etc., qui fait que c'est devenu la forme du débat à tout prix pour résoudre n'importe quoi et pour parler de tout et n'importe quoi, le dialogue. Et on retrouve le même lexique lorsque le FMI, la Banque mondiale ou l'ONU parlent des pays du Sud global. Le dialogue, on va admettre ça, il y a un coup d'État, le dialogue, les partenaires, la société civile.
Non, je suis fatiguée. Je te jure. Et en fait, et c'est ça, tu vois, par exemple, pour ces jours-là, je disais à une amie, j'ai refusé d'aller à tout ce qui me paraissait activité folklorique où on s'assoit et puis on écoute deux, trois personnes parler, même si j'aurais pu faire partie des personnes qui parleraient. Je ne suis pas allée, je ne veux pas. Donc, une des choses à laquelle j'ai participé, c'est enregistrer une émission, etc., par un groupe plus communautaire. Donc, Warka TV, où on fait d'ailleurs des Wartan, justement, qui sont vraiment des conversations. Et avec notre collectif, on a fait des belles conversations qu'on a tenues dans des quartiers avec les gens qui ont co-animé. On a fait des conversations littéralement de salon avec des femmes, etc., du quartier qui ont organisé leurs conversations. Et puis, on a été parler de consentement avec les personnes en partant de leur perspective. Et donc, lorsqu'on organise des conférences, on reste entre nous. Et ça, il faut le dire. Et donc, même quand on va, donc, ce qu'on dit, on va dans les quartiers, blablabla, on arrive là et puis tu peux organiser un panel et puis le panel se déroulerait exactement comme il serait déroulé à l'université. Et donc, ce n'est pas l'idée. Et ça nous enlève tellement de capacités qu'on avait dans les sociétés africaines, je pense, à délibérer, à avoir l'information qui circule différemment, à avoir des processus plus... qui tiennent compte des voix, des différentes voix, justement, pas que tout le monde vient juste écouter quelqu'un nous informer, nous former et partir. Donc c'est ça, en fait, j'ai une frustration par rapport à toutes les conférences, même si je suis dans 1000 conférences, mais ça reste une frustration, et j'essaie d'organiser donc des activités dans des espaces différents, organisé avec notre collectif, on a organisé notamment des open mic sur l'engagement social, des open mic où on a eu des philosophes, des artistes, des militantes féministes, des danseurs, etc. Donc voilà. Et puis l'autre défi, c'est vraiment ne pas se tromper de cible, en fait, et toujours continuer à s'interroger, je pense, sur les façons dont la colonialité continue à opérer. Et ne pas rester focus sur la France, parce que des fois, c'est ça qui nous arrive, on oublie tous les autres pays, alors que le néocolonialisme, il ne vient pas seulement de la France. Donc voilà, je ne sais pas.
Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette magnifique conversation. Et je te laisse le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour conclure?
Moi, j'ai envie de te remercier, Fania, et surtout remercier aussi toutes les personnes qui ont suivi ces émissions-là pendant tout le temps que ça s'est déroulé. Envoyer un grand bonjour aux sœurs d'Afrique et de la Caraïbe et partout dans ce qu'on appelle la diaspora. Et voilà, et puis encourager tout le monde à continuer à participer aux actions ou tout simplement se reposer aussi. Donc voilà, merci beaucoup.
C'était Noir Atlantique, le dernier épisode de Noir Atlantique qui est disponible sur toutes vos plateformes de podcast et les anciens épisodes aussi sont disponibles. C'était un plaisir d'être la host de ce podcast. Merci encore. Vous pouvez me retrouver sur Instagram Fania_Noël ou Twitter Fania Makaya. Kizu Studio est un projet militant et bénévole. Vous pouvez le soutenir sur kizustudio.org pour proposer vos idées de podcast. Encore une fois, merci. Je ne vous retrouve pas le mois prochain. Et comme on dit, je vous donne la route. Prenez soin de vous.